Donc, la semaine passée, quand on a fini notre soirée en descendant à la maison, on était vraiment dans la joie et dans la paix. Fait que j'ai dit, Seigneur, merci pour ce beau week-end que tu nous as donné, parce que Dieu est agissant, Dieu est guérissant et Dieu est délivrant. Donc, quand je me suis couché dimanche, on était... T'as fatigué, honnêtement, là, on était à 3 heures de route et, comme qu'on dit, brûlé, là, tu sais, fait que... Et j'ai dit, Seigneur, prépare mon cœur pour la semaine prochaine pour qu'est-ce que tu voudrais que je rapporte. Et lundi, en réveillant, j'aime ça paresser dans mon lit quand je me réveille. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, là. Je n'ai pas tout de suite le pied dehors, comme qu'on dit. Donc, temps de me tirer, puis une belle petite voix douce qui est venue. Et le Seigneur me disait, continue à déverser sur la guérison. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne à travers cela? Et la petite voix douce, elle est venue, la restauration de nos âmes. Et je pense que c'est un sujet qui est important, c'est la guérison de nos âmes. Qu'on soit jeune, qu'on soit moyennement avancé ou qu'on avance, il arrive des situations dans la vie où que le cœur a besoin d'être guéri. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. Et j'aimerais parler de ce sujet qui est pour moi important, la restauration de nos âmes. Comment qu'on puisse s'en sortir? Comme que je dis souvent, moi, je peux aider, je peux écouter, mais en réalité, la vraie guérison va venir d'en haut. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais il y a quand même des clés, il y a des solutions à travers la parole de Dieu qui va nous diriger, qui va nous exhorter pour aller plus loin avec ces choses-là. Donc, j'aimerais lire avec vous le premier verset dans Luc chapitre 4 et le verset 18. Luc chapitre 4, verset 18, qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour libérer, pour renvoyer libres les opprimés. Seigneur, ce matin, Père, je me soumets à toi. Seigneur, cette parole, Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, c'est la parole de vie, c'est la parole d'espoir, la parole de guérison. Seigneur, ce matin, je te prie de venir guérir ceux qui ont besoin de guérison, physique, morale, spirituellement. Seigneur, tu es venu pour guérir. Et Seigneur, ce matin, je te prie qu'à travers le message, que ça puisse porter un fruit dans la vie de ton peuple. Oh Seigneur, que la libération va venir. Seigneur, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir, c'est la libération, Seigneur, de nos fardeaux. Père, je te prie de bénir la parole, de m'aider à déverser face à ce message. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, amen et amen. Donc, pour mieux se situer, pour mieux saisir la parole ce matin, vous voyez que Jésus est venu pour accomplir la parole qui a été dite sur lui. Il a été oint de puissance et de force au point de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia! Donc, l'onction du Saint-Esprit, en réalité, c'est une puissance qui vient pour libérer. Alléluia! Premièrement, l'onction est venue pour guérir, libérer. Donc, pour nous permettre de vivre en chrétien libre, pour nous remettre en liberté et pour nous remettre loin de l'esclavage. Une personne qui est prisonnière, une personne qui est esclave, une personne qui est tenue captive, ne sera jamais heureux. Ça ne marche pas dans la vie de cette façon-là. J'aimerais m'arrêter ce matin sur cette parole que Jésus a dit, « Je suis venu pour renvoyer libres les opprimés. » J'aimerais m'arrêter sur le mot « opprimé » ce matin. Et « opprimé », ça veut dire, premièrement, que c'est une personne qui est accablée sur un lourd, sur un fardeau qui est lourd, que c'est difficile, c'est écrasé par la vie et que la personne est malheureuse. C'est quelqu'un qui est opprimé. C'est de vivre en se soumettant à une autorité abusive qui contrôle vos pensées. Tu vis sur une pression, mais l'onction du Saint-Esprit, elle vient pour libérer nos âmes. Alléluia! Ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous vivez ce matin dans l'accablement, dans la difficulté, le Saint-Esprit, je crois de tout cœur, est venu pour pas que tu restes prisonnier ou que tu restes sous l'emprise de ton ennemi ou que tu sois malheureux, mais il veut emporter la restauration. Combien ce soir, ce matin, sont d'accord avec dire avec moi que j'ai besoin de restauration, que j'ai besoin de retrouver une vie normale, une vie équilibrée, une vie épanouie. Hallelujah! La vie chrétienne, c'est une vie d'épanouissement. Un chrétien doit apprendre à s'épanouir en Jésus-Christ. Hallelujah! C'est la bonne nouvelle de Jésus. Il n'est pas venu pour tenir captif. Il nous dit, je suis venu pour libérer. Hallelujah! Et le mot grec pour opprimer, ça veut dire maltraiter, être chargé, déshonoré, foulé, trompé, être exploité, écrasé, cassé en morceaux, brisé et meurtri. Wow! C'est ça, opprimé. Donc, si tu vis dans une de ces choses-là, donc, à quelque part, tu as besoin de soins. Hallelujah! Un soin de vrai bon pasteur. Jérémie nous parle, c'est quoi être opprimé? Lisons Jérémie, chapitre 50, verset 33. Jérémie, vous allez voir, c'est quoi l'oppression? C'est un beau texte qui nous en parle. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et ils refusent de les relâcher. » Donc, on voit ici l'opprimé, quelqu'un qui est opprimé. Donc, quelqu'un qui est accablé par quelque chose de lourd, comme j'ai dit tantôt, par une autorité qui est autre que Jésus-Christ, qui te tient captif dans tes pensées et qui refuse de te relâcher. Donc, quand on dit relâcher, que tu restes esclave. Donc, on a besoin d'être relâché. Le peuple, il était prisonnier de son ennemi. Donc, c'est une oppression ou quelqu'un qui est opprimé, c'est comme une sangsue qui vous colle à la peau puis vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Est-ce qu'on comprend bien mon langage? Et cela, ça fait que tu vas rester dans la tristesse, que tu vas rester dans la blessure. Et il y a beaucoup de gens dans les églises, laissez-moi vous dire, parce que c'est là que je travaille au cœur des gens, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre qui vivent l'angoisse, sont inquiets et sont anxieux. Même dans le milieu chrétien, il y a des chrétiens qui ont même peur de mourir. On voit ça dans nos propres milieux, qui vivent avec des problèmes et des problèmes et des problèmes. Ils sont tellement anxieux, sont tellement inquiets qu'ils ne savent même plus comment s'y prendre. On voit ça régulièrement, ces choses-là. Isaïe 38, 14, « Je suis dans l'angoisse », il dit « Secours-moi ». Donc, Jérémie, il est en train de nous dire, « Moi aussi, j'ai un problème. Seigneur, délivre-moi de mon angoisse. » Ça veut dire que quand on vit dans les angoisses, ça veut dire que nos émotions sont à vif. Et cela, c'est malheureux. Et si vous vivez avec ces choses-là, que la bonne nouvelle ce matin encore, Jésus-Christ délivre de ces choses-là. Il est capable de te relever, il est capable de te guérir, de te délivrer de toutes tes émotions négatives. Alléluia! Soit tes anxiétés, soit tes angoisses, soit tes inquiétudes. La bonne nouvelle, Ésaïe 58, versets 11 et 12. « L'Éternel sera toujours ton guide. » Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent point. Même si tu sens dans ton cœur que c'est sec, que ça va pas, quand nous crions à Dieu, donc ou si nous sommes dépendants, je pourrais dire, du Seigneur, il viendra te rassasier. C'est-à-dire, il est le seul qui peut satisfaire ton besoin. Le seul qui peut satisfaire ton besoin. L'homme peut te satisfaire à quelque part, mais jamais comme le Seigneur peut le faire pour toi personnellement. Non, non, il veut te redonner de la vigueur dans tes membres, dans ta vie. Il veut t'arroser comme un jardin qui a besoin. Ceux qui ont des fleurs l'été ou des jardins, vous faites quoi pour vos carottes poussent? Vous mettez de l'eau. Alléluia! Donc, c'est la réalité. Donc, ces eaux-là, ça ne t'arrête pas. Elles sont pleines. Le ciel est plein. Le ciel veut relâcher du rafraîchissement dans nos vies. Alléluia! Dites-moi en grand même, j'ai besoin de rafraîchissement. Alléluia! J'ai besoin d'être épanoui dans ma vie chrétienne. Donc, tu ne peux pas toujours être sur le dos. Non, ça ne marche pas, ces choses-là. J'encourage ce matin à te dire que relève-toi s'il y a quelque chose de négatif dans ta vie. Donc, le Seigneur, il veut rafraîchir ceux qui sont fatigués et épuisés. Alléluia! Cette eau, elle coule directement du trône de la grâce de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Non seulement qu'il veut rafraîchir, mais également te relever. Et je dirais, dans les blessures, c'est là qu'on a besoin également d'être rebâti. parce que la blessure, elle vient t'anéantir. Tu viens te mettre des culpabilités. Là, on va le voir tantôt dans quelques versets, mais le Seigneur veut rebâtir ce qui a été détruit. Hallelujah! Moi, je pourrais vous donner des propres témoignages dans ma vie où j'ai connu des tempêtes assez fortes, puis j'ai eu besoin d'être rebâti dans ma foi parce que jamais j'aurais pu continuer. Personne ici ce matin est intouchable. Comprenez-moi bien, personne n'est intouchable. Le Seigneur peut te faire passer les saisons qu'il veut te faire passer. Alléluia. Moi, quand on dit, moi, je suis un intouchable, moi, je dis, sois moins orgueilleux un peu, là. Pète ta ballonne un peu. Alléluia. Ésaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins qui te rend le pays habitable. » Vous savez, quand l'amour de Dieu, la grâce de Dieu nous touche, et on a besoin d'être touché par Dieu, et qu'on sent une brise qui vient sur votre vie, je dirais, laissons-nous toucher. Souvent, les gens, écoute, je te parle par expérience ce matin, quand les gens sont touchés, on dirait qu'ils ne veulent pas s'ouvrir et puis sont tellement fébriles que tu vas leur parler après. C'est comme, tout est fermé. Tout est fermé. Mais quand le Seigneur vient, hallelujah, c'est qu'il veut rebâtir, hallelujah, où c'était difficile dans ta vie, là où tu étais blessé, où tu t'es effondré, où tu n'as plus la force de te combattre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la force de combattre, ils restent à la maison, il y a toutes mille et une raisons pourquoi ils ne viennent plus à l'église, blessés par un, déçus par l'autre. Mettez-en, c'est l'église de Jésus-Christ, bienvenue à l'église de Corinthe, il y a les blessures, ça vient dans le cœur des gens et les gens sont découragés, ils n'ont plus de place pour eux. Jésus a la puissance d'amour pour colmater les problèmes de la vie. Alléluia! C'est lui, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui vient guérir, qui vient mettre le pansement ou que la brèche est ouverte pour t'emporter sa guérison. Peu importe où vous passez dans votre vie, les blessures de la vie sont difficiles. Alléluia, dites un gros amen, là. Alléluia, on est toutes des personnes quand même d'un certain âge, là. On peut dire que oui, la vie n'a pas toujours été facile, là. Puis que oui, j'ai appris à tricoter plus qu'une fois mes bas de laine, là. On peut parler de cette façon-là. Vous savez, c'est difficile, puis des fois, c'est dur à se remettre debout. Puis vous savez, le processus peut être long, il peut être douloureux avant d'être complètement restauré. La guérison, les gens, on parle du physique, oui, ça peut. Mais il y a des guérisons d'âme que ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Tu sais, tu trouves un coke, tu sois, tu le bois. Une guérison d'âme, tu auras beau ouvrir ton coke, là, mais je ne suis pas sûr qu'il va être guéri après. Là. Donc, qu'est-ce que j'appelle, c'est de passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans ce temps-là, la chair, elle craque de partout, les émotions viennent de partout, et quand ça va pas bien, les émotions se manifestent. Vous savez, dans les moments de grandes épreuves, on pourrait en parler, puis je vais en parler un peu. Vous savez, avant, je suis ici ce matin, là, mais avant d'être un serviteur, je suis juste un chrétien. Je ne suis pas plus haut, peut-être pas ma ballonne plus qu'un autre parce que je suis un serviteur. Là. On est tous au même niveau, OK? Là? Fait que je ne suis pas exempt de me faire taper dessus. Je ne suis pas exempt d'avoir des blessures. On se comprend, là? Donc, voyez pas toujours les hommes de Dieu, là, on vit chacun nos combats, on s'entend avec ces choses-là. Là. Et quand les fournaises de Dieu, ça chauffe, mais ça chauffe. Je me souviens, il y a eu des années, je vous dirais, je parle des années, ou que la compagnie Kleenex, elle a fait du cash avec moi. Elle a fait du cash. J'ai pleuré plus souvent qu'à mon tour, et Manon me disait, « Serge, tu es un homme abattu et fatigué. Quand ça vient de ta femme, tu le prends comme conseil. » Et j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, je sentais la fournaise de Dieu sur ma vie, et ça faisait mal. J'étais comme un enfant vraiment désabusé, il n'y avait rien qui se passait, j'étais découragé, et j'ai même crié, « Hey Dieu, où es-tu? » Ça vous est arrivé? « Où es-tu, Dieu? » Je crois à tes promesses, je crois à ces choses-là. Malgré la douleur, malgré le désarroi, Je croyais au plus profond de mon cœur, je crois au plus profond de mon cœur, que Dieu n'était pas là pour m'abandonner, mais il était là pour me relever aussi. Et pour rétablir des fondations dans ma vie, j'ai persévéré, j'ai resté dans l'attente, puis c'était très formateur. L'épreuve, c'est formateur. Dis à ton voisin, oh, c'est formateur l'épreuve. Oh, ça travaille le caractère. Oh, ça travaille mes émotions. Oh, ça me chatouille les orteils. Alléluia! Les émotions, on les vit. Donc, le Seigneur, il est le seul qui peut nous remettre sur pied. La restauration, c'est une remise à neuf. Donc, il faut que ça sable pour remettre ce bois. Amener des meubles sur quelqu'un qui travaille le bois, sur un ébéniste, il va le sabler pour qu'il soit beau. Souvent, le Seigneur nous sable pour qu'on soit beau, puis guérir, puis nous restaurer. Donnez-vous le temps ce matin de recevoir votre restauration. Jésus a guéri les émotions des âmes. Vous savez, il sera ton réparateur de brèches. Le psaume 103, verset 6, l'Éternel, oh que j'aime ce verset, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Vous savez, j'aime beaucoup parler sur la justice de Dieu. C'est quelque chose, c'est des thèmes qu'il faut saisir, c'est quoi la justice de Dieu, l'amour de Dieu en réalité. Vous savez, la justice de Dieu en Jésus-Christ, elle vient pour briser les chaînes également de l'ennemi, pour recevoir non seulement ta délivrance, mais également tu retrouves la joie, la paix et le bonheur. Une personne blessée par la vie et qui reste triste et qui vit toujours dans le passé a besoin de retrouver une santé spirituelle. Moi, je vous ai dit la dernière fois, je parlais avec mon père qui me parlait toujours du passé. Puis je parle encore avec des chrétiens, puis « Ah, dans mon temps, dans ce temps-là. » Puis on entend parler du passé. Vivons dans le présent. Alléluia! Tu sais, même si tu compterais ta vie là, 50 000 fois, là, tu ne peux pas changer, moi, ta vie. Allô? Donc, la restauration, l'amour de Dieu, c'est qu'il veut que tu retrouves ta santé spirituelle. La justice du Père vous voit à travers le sang de son Fils. Le sang vient pour vous libérer si vous êtes opprimé. La puissante onction du Saint-Esprit fait que ton adversaire n'a pas l'avantage sur le poids de ta vie. Dites-moi un gros amen. Il n'a pas l'avantage sur ta vie. La bonne nouvelle encore ce matin, par la justice de Dieu en Christ, vous pouvez être libéré de votre oppresseur, soit dans vos blessures, dans vos tristesses, dans votre anxiété, dans vos angoisses, dans vos craintes et dans vos peurs. Puis on vit ça dans les églises. On vit toutes ces choses-là, puis c'est pas dans l'église. Ça peut venir sur ta vie, personne. Peur de perdre ta job, peur de ne pas avoir ta pension, peur de perdre ton... peur de... Mettez-en de la peur, tu sais. Mais Jésus brise la captivité de ces choses-là. Dans la guérison d'âme, il y a une bonne nouvelle. Lisez avec moi, Jérémie. Ah, que j'aime encore ce texte. Jérémie 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui entend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte, ne cesse de porter du fruit. » Même dans l'année de la sécheresse, donc tu vas porter du fruit. Pas moi qui le dis, là. Hein? Je prends ce qui est écrit là. On voit ici la bonne nouvelle. L'homme qui se confie en Dieu, l'homme qui reste attaché à Dieu et qui espère en Dieu, qui place sa foi en lui, sa confiance en lui, tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau et malgré ta souffrance, tu vas continuer à étendre vraiment tes racines vers Dieu. Alléluia! Le courant d'eau va venir nourrir ces choses-là. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est la vie, Jésus-Christ qui est la vie pour chacun de nous. Donc, nous, je vais vous faire rire un peu. J'appelle ça ma vie spirituelle. J'ai une vie spirituelle souterraine. Une vie spirituelle où nos racines, ou ma racine, ou vos racines vont trouver de la profondeur. Notre vie, notre intimité avec Dieu est comme un sous-marin. Vous savez, un sous-marin, plus qu'il va descendre dans la profondeur, plus qu'il va être à l'abri de ses ennemis, parce que les radars sont plus difficiles à capter. Donc, il ne se fait pas démasquer. Quand nous entrons dans une communion intime avec Dieu, en profondeur avec Dieu, donc tu plonges dans les profondeurs de l'amour et de la grâce de Dieu. Alléluia! Donc, on peut dire, comme David, dans les moments fragiles de la vie, puis je vais y revenir, dans le psaume 56, verset 9, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans les urnes, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Écoutez bien, David nous dit bien que tu comptes les pas de ma vie. David est en train de dire, si vous faites l'étude du texte, que tu vois, Seigneur, la saison que je passe. Et Seigneur dit, recueille mes larmes, je passe une saison qui est dure. Et tu vois ma souffrance, tu vois mes larmes dans tes yeux. Ma douleur n'est-elle pas inscrite dans ton livre de vie, dans le livre où tout est écrit? David déverse son cœur dans la présence de Dieu. Il déverse même ses larmes. Ils sont même recueillis. Et pleurer, c'est un signe de fragilité devant le Seigneur. Et c'est bon de pleurer devant le Seigneur. Ayez des boîtes de Kleenex dans vos bureaux quand vous priez. Alléluia! C'est pas un concours de vitesse à aller prier. C'est un temps où le cœur à cœur, il se manifeste avec Dieu. Et là, ça peut verser. Ah, écoute, moi, je disais souvent, les femmes pleurent, mais laisse-moi vous dire que je pense que j'ai pleuré plus que les femmes. Les hommes, laissez passer vos émotions un peu, là. Alléluia. Allô? Alléluia. Oh, moi, un homme pleure pas. Ben non. Un homme peut pleurer, ben oui, c'est bon, c'est humiliant, mais ça fait du bien. Alléluia! Donc, on réalise que la chair est faible, et quand on est dans ces états-là, tu cries au secours de l'Éternel. Seule la grâce peut te relever. Écoutez bien, 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne connaît les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. » Un jour, dans une mission, dans une croisade d'évangélisation, c'était un groupe de jeunesse. Donc, moi, à l'âge rendu là, ma jeunesse est un peu passée, mais quand même, la parole, elle reste jeune. C'est la bonne nouvelle. Et donc, j'ai commencé à y aller, à prêcher, comme que je fais là. Il y a des jeunes qui avançaient, puis qui vivaient des problèmes, difficultés avec les parents, difficultés avec l'école, vivaient dans l'intimidation. Donc, il n'y a rien de leur vie qui allait bien. Il n'y a rien. Donc, il y en a même qui pensaient à aller plus loin, comprenez le geste. Et Dieu est bon. Dieu connaît, quand on dit que Dieu connaît les profondeurs de notre cœur, et Dieu souvent utilise des dons prophétiques pour dévoiler les choses. Et j'ai eu ce soir-là trois jeunes, je vous dis là, trois jeunes qui ont été vraiment rencontrés par le Seigneur. Il y en a une qui s'est levée, elle dit, moi j'avais de la haine comme mes parents, elle dit, j'ai complètement été délivrée, j'ai senti de quoi un poids qui est parti. Il y a une autre jeune fille qui vivait de la dépendance avec de la drogue. Et cette jeune fille est venue, elle dit, c'est drôle, elle dit, j'ai même plus de goût d'aller fumer une cigarette. Donc, il y a une autre personne qui était là, la même chose, elle vivait des temps durs, puis elle était toujours une femme bagarreur. Donc, elle mettait le trouble partout. Elle dit, c'est drôle, elle dit, un matin, j'ai senti la paix venir dans mon cœur. Alléluia, Dieu connaît nos cœurs. Et Dieu, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, Dieu délivre qui veut bien délivrer. Dans cette profondeur, l'Esprit de Dieu connaît le chemin par où tu passes. Alléluia! Au point qu'il intercède par des soupirs qui sont même pas exprimables, qui viennent à la profondeur de ton cœur, et il est prêt à t'aider pour te relever, te réconforter. Il y a des, dites avec moi ce matin, il y a des jours meilleurs qui sont devant moi pour ma guérison. Dis-toi qu'il y a des jours meilleurs pour ta guérison. Alléluia. Ne désespère pas, parce que la guérison, elle est touchable. On peut toucher ces choses-là. Si votre vie est fondée dans la parole de Dieu, dans la prière, est vraiment qui est fondée dans la parole, la maison qui est bâtie sur le rocher, alléluia, donc on va rester solide, alléluia. Peu importe qu'est-ce que tu vas vivre, peu importe les vents qui vont venir, ta maison va résister parce qu'il y a des racines. Elle est enracinée, ta maison. Alléluia. Et dans cette même période de temps, tu vas vivre non dans la crainte, non dans la peur, mais tu vas vivre dans la paix. car Dieu est un refuge et un appui et un secours quand nous manquons dans la faiblesse, quand nous manquons, quand nous sommes dans la détresse. Dieu est un secours. Dis avec moi, Dieu est mon secours. Dieu est mon libérateur. Alléluia. Donc, c'est un secours qui ne manque jamais. Dieu est toujours fidèle. Le fruit va être encore meilleur. Alléluia. Hébreux 12, 11, ceux qui passent plus difficile. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible et de justice. Donc, c'est vrai que l'épreuve du moment, on n'a pas le goût de danser le tango. Hallelujah! On n'a pas le goût de rire, on n'a pas le goût de s'inflammer, on n'a pas le goût de parler à quoi que ce soit. Quelqu'un qui est blessé est renfermé sur lui-même. On s'entend? Donc, quand on dit « t'as pas le goût de te réjouir », et Jérémie nous dit même 8-18, je sors des versets pour vous encourager, « je voudrais soulager ma douleur, mon corps souffre au-dedans de moi. » La souffrance fait partie de la vie. Oh, hallelujah! Oh, on n'aime pas ça entendre ça, hein? Mais veut, veut pas avoir arrivé pareil. Tu ne demandes pas, ça va arriver. Cours pas après les problèmes, ils vont arriver les problèmes. Alléluia. Jérémie aurait bien voulu que Dieu y enlève sa douleur, mais ça n'a pas marché. Comme les gens nous disent dans le monde, j'ai mal à l'âme. Entendez-vous ça, ces choses-là? J'ai mal à l'âme. Vous savez, la souffrance morale, c'est difficile à supporter. Je vous dirais même plus que c'est usant. Mais Dieu forme et change et transforme nos vies. Ça nous fait plier les genoux. Alléluia, avez-vous des bons genoux? Alléluia, Dieu le permet que tu plies les genoux. Moi, oui, il faut que ça plie à quelque part. Donc, quand on commence à plier les genoux, bien, on cherche la faveur de Dieu, la guérison, parce que tu veux t'en sortir. Alléluia, l'épreuve de la vie et la persévérance fait que ça donne un fruit de justice, une paix intérieure. L'homme peut te conseiller, te diriger, prier avec toi, t'écouter, pleurer, se réjouir avec toi, te tenir la main, sentir la chaleur de quelqu'un qui est là pour toi. Et ça fait du bien, honnêtement, mais la vraie guérison et la vraie délivrance viendra de ton berger céleste qui va venir enlever ta douleur intérieure. Alléluia! Le psaume 42. « Toi, Éternel, tu ne refuses pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » La fidélité me gardera toujours. On voit ici David nous dit, Dieu, que ton affection reste avec moi. L'affection, quand on parle d'une affection, c'est un attachement pour une personne. Que tu aimes la personne. Ça, c'est un attachement. David nous dit, Dieu, dans ton attachement pour moi, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta fidélité, tu me gardes près de toi. C'est le cœur de David. David, son seul désir, c'est que Dieu ne refuse pas ses compassions et ses bienfaits. Alléluia! Est-ce qu'on a ce cœur-là ce matin? Alléluia! C'est des pistes qui nous emportent par de la délivrance ou de la guérison. David a besoin de son Dieu. Nous devons dire, Saint-Esprit, viens m'aider à me sortir de mon combat. Alléluia! Et Seigneur, emporte-moi la délivrance parce que j'ai besoin. C'est en réalité, qu'est-ce que je dis dans un simple mot? Réalisez vos besoins. Réalise où tu as besoin d'être guéri, d'être délivré. Même si tu vas voir un pasteur à tous les jours, à toutes les semaines, tu l'appelles 24 sur 24, ça ne changera pas ta vie. Allô? Bonjour. David s'appuyait sur son Dieu. Alléluia. Dieu seul a le pouvoir de anéantir ton ennemi. Il est le seul qui peut pardonner tes péchés. Il est le seul qui peut guérir également. Et il est le seul qui peut également restaurer ton image qui a été brisée. L'image brisée. Comment nous voyons ça dans l'Église? Des gens brisés. Brisés. Combien de fois, moi et Manon, on a ramassé des gens à la petite cuillère. À la petite cuillère, à force d'être brisés. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que les gens ont besoin d'être guéris. Vous n'êtes pas exempt, c'est la bonne nouvelle. Je ne suis pas exempt. Donc, ce matin, on est tous en même galère. Malachie 4:2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme un veau d'un étable. La bonne nouvelle, pour nous, enfants de Dieu, nous avons un consolateur, le Saint-Esprit, un ami qui se tient à côté de vous pour vous aider et qui vient pour vous consoler. Le mot « consolation », c'est d'apporter du réconfort, c'est de prendre la douleur, prendre part à la douleur d'une personne. Ça, c'est la consolation. Et nous avons le Dieu de toute consolation, selon 2 Corinthiens. Et si vous craignez Dieu, si vous respectez Dieu, même si c'est dur, même si c'est difficile, devant le Père, que vous croyez en votre délivrance, Dieu le Père va se lever juste pour toi. Le soleil va venir sur ta vie. Ça va commencer à briller où c'était noir. Et la justice d'amour par le sang de Jésus, son Fils, va agir envers toi. Croyez-le. Croyez-le ce matin que ceux qui vivent, qui n'ont pas d'espoir, puis ça ne marche jamais, croyez que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Croyez-le. Donc, découvrez cette grâce, cet amour que Jésus a pour vous. Alléluia. Arrêtons de faire des bêtises. Arrête-toi sur le Seigneur. C'est lui qui va te donner la main. C'est lui qui va te relever. Hein? David nous dit, j'ai jamais vu le juste mendier son bain, puis c'est toujours lui qui m'a relevé. Alléluia. Le Seigneur, t'es sous la protection, sur ses ailes, qui va t'apporter la guérison, te redonner l'espoir dans le désespoir. La guérison, ça emporte la joie et le bonheur. Comme le veau, la première fois qu'on voit dans notre texte, quand il sort dehors la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou comme un balai. Il saute de joie, il court partout, il saute partout. Il découvre enfin c'est quoi la liberté. Alléluia! Si tu veux sauter de joie ce matin, le seul qui va te donner cette joie, on l'a dit. Isaïe 40, verset 29, verset 31, c'est lui qui va te donner la force à celui qui est fatigué. Il augmentera la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Une autre promesse ce matin. Il est le seul qui va te relever, qui va te redonner de la force dans ta fatigue et qui va augmenter la vigueur si tu es tombé dans la défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Donc, ceux qui se confient en l'Éternel, le Saint-Esprit ce matin encore nous relève et il désire que tu sois complètement restauré. Vous savez, la restauration, le renouvellement, c'est les forces reviennent. Vous savez, quand j'étais malade, après l'opération, j'étais un gros mois. Je pourrais dire là, couché de dos, prendre un petit verre d'eau, puis une petite bouchée, puis j'allais me recoucher. J'étais fatigué. Mais quand les forces sont revenues, j'ai commencé à lever mon lit, j'ai commencé à faire un peu d'activité. C'est ça, restaurer. On reprend des forces. Alléluia. Donc, tu ne peux pas toujours rester couché. Vous savez, moi, je ne peux pas toujours rester couché. Je ne peux pas toujours rester couché. Faut que je me lève à un moment donné. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est là pour nous reprendre, il nous aimait, qu'on soit repris par lui, c'est-à-dire relevé par lui. Donc, le Seigneur te dit, écoutez bien, Ésaïe 66, 13, regardez bien ce qui est écrit, Ésaïe 66, 13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. » Écoutez bien, j'ai sorti une illustration. Bon, je suppose qu'il y en a qui se souviennent de votre jeunesse, de votre petite jeunesse. Moi, là, quand je partais avec ma mère, là, donc, je me sentais en sécurité, elle me tenait la main. Donc, quand j'étais à la maison, elle me prenait sur elle, elle me caressait les cheveux. Tu sais, j'étais son fils. Donc, puis, écoutez, je me sentais réconforté par ma mère. C'était ma sécurité. Elle présentait des soins pour moi partout où on allait. Elle me tenait la main. Elle était là, c'est rassurant. C'est la même chose avec papa. Alléluia! Papa, il est là pour te prendre les mains. Il est là pour te réconforter, il est là pour t'aimer, alléluia. Il est là pour t'emporter la guérison, la restauration de ta vie. Il est là pour te consoler, vous réconforter et vous soulager. Jésus t'invite à aller vers lui. Je dis souvent en humour, papa a les bras d'amour pour prendre n'importe qui dans ses bras. peu importe ta grandeur, peu importe ton poids, il a tout le bras pour te prendre sur lui. Alléluia. Donc, il y a de l'amour à ce point-là. Jésus n'a jamais abandonné sa bergerie. Les promesses sont oui et amen, et la fidélité de Dieu, elle est oui et amen. Jésus nous assure la véritable paix. Ésaïe 35, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et dans la confiance qui sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ah, c'est fort les derniers mots. Donc, si vous voulez retrouver un aspect de votre vie, donc reste calme avec le Seigneur. Pose tes valises et fais avec moi. Respire. Arrête de courir de gauche à droite, là. Respire. Rentre dans le repos de Dieu. C'est quoi le repos de Dieu? C'est lui faire totalement confiance. Peu importe ce qui va arriver. Dieu te contrôle la situation. J'aimerais, il nous reste deux textes, quelle heure est-il? C'est bon. Dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 16, 1 à 6, ça nous parle que David a revenu avec ses guerriers dans son village. Quand ils sont arrivés au loin, ils ont vu de la fumée dans le village. Et quand ils sont arrivés devant le village, il était tout brûlé. Il y a eu un ennemi, les Amalécites, qui ont passé. Et ils ont pris leurs enfants, leurs femmes, les bébés, les jeunes. Ils ont tout pris, ils ont tout volé. Et quand David est arrivé au camp, quand ils sont aperçus de ces choses-là, donc la Bible nous dit qu'ils ont commencé à pleurer, tellement pleurer, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de force. Et 1 Samuel, chapitre 30, verset 16, verset 6, « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Nous voyons ici une tempête parfaite de la vie. Rien ne va plus. Le village était complètement saccagé. Il ne reste plus rien. Les familles ont été kidnappées. Donc, ça ne va pas bien. Tellement que les gens vont dire, on va lapider David. Donc, si vous voulez vivre la pression, là, ça n'est une bonne ici. Là. Et le peuple dit, écoute David. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est de ta faute. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Le camp a resté libre. Tu aurais dû mettre des gens, rester des gens au village. Ça ne sera pas arrivé. Il dit, David, tu n'as pas pris tes responsabilités. On a tout perdu. C'est de ta faute. Ces gens sont remplis d'amertume. L'amertume, c'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui est irrité. C'est quelqu'un qui est offensé. Et ça emporte le découragement. C'est une déception. L'amertume est descendue dans ton âme et la preuve que tu vis dans l'amertume, ça se sort par la bouche, on va le lapider. Allô, la bouche, elle ne ment pas de ce qu'on dit. Donc, ces gens n'acceptent pas ce qui vient d'arriver. Attention de tomber dans le piège de l'amertume. Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. » Donc, quand nous sommes déçus, quand nous sommes blessés, quand nous sommes amers, attention de déverser ton amertume sur les autres. Allô? Ça vous parle un petit peu? La déception de la vie peut briser la vie des autres également autour de vous. Même si tu en parleras à Pierre, Jean-Jacques, attention de briser la vie des gens. Vous savez, tu auras beau vivre des problèmes, tu pourras dire, cette situation-là, elle est injuste, je ne l'accepte pas. Peut-être que ce matin, vous vivez dans une forme d'injustice dans votre vie et que ça ne fait vraiment pas ton affaire. Et puis, ça peut arriver que votre cœur saigne de douleur et que vous voulez vous faire propre, votre propre justice dans votre chair. Et David vit dans une grande angoisse face aux gens qui veulent le tuer, qui vivent l'amertume. Face aux menaces, David va faire quelque chose d'extraordinaire face à ses angoisses, face à ses peurs. Donc, David vit aussi l'inquiétude, David vit aussi la frayeur, vit aussi l'insécurité. Vous savez, vivre avec l'angoisse, c'est difficile moralement et c'est dur sur le corps. Donc, vivre dans un stress constant comme David a vécu, c'est dur pour lui. Et l'amertume veut détruire. Et si l'amertume veut détruire la vie de David, ils ont pris David en dévolu. Si vous vivez dans une période amère, amertume, et que vous sentez vivre votre injustice ou que vivez dans l'angoisse, faites comme David. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Allô? Pas sur le voisin ou pas sur l'autre, mais sur celui qui a la force de te sortir de ton pétrin. La psaume 34, 5 à 7, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. » Donc, David, dans cette grande période de sa vie, un homme qui est habitué au combat, un homme de grand combat, un roi, il va placer sa foi en Dieu et il va rentrer dans le repos de Dieu. Comprenez-moi ce que je suis en train de vous dire. Comprenez-vous? Donc, toute la souffrance humaine en réalité, tout ce que nous vivons, on peut aider, mais on a des limites. On a des limites. Il y a des limites où qu'on peut aller. Comprenez-vous? Donc, je suis en train de dire que, fais comme David, commence à chercher la face de Dieu. C'est lui qui va te diriger. Laisse-moi te dire qu'il est vivant. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, mais il n'a pas été à l'abri des épreuves de la vie. Il a vécu ces épreuves comme vous et moi. Donc, cet homme-là ne vivra pas. Il a pris une solution. Il dit, moi, là, on veut m'accuser, on veut me juger, on veut me lapider. Il dit, je ne vivrai pas toute ma vie sur la calamité, dans l'angoisse, dans la peur de toute ma vie. Et ça ne marche pas comme ça. L'Éternel va venir me délivrer. Alléluia. Commencez à penser de cette façon. Commencez à renverser la façon de votre pensée. Dégagez-vous de ces choses-là. David veut une guérison morale, spirituelle également. Vous savez, dans cette grosse tempête, David a repris courage. Et que j'aime ça quand je vois des gens qui vivent des difficultés, puis quelques semaines par après, ils disent « ça va beaucoup mieux, Pasteur Serge, ou on a gagné des grandes victoires. Le Seigneur a répondu à nos prières. » Que vous soyez jeune, que vous soyez, peu importe votre âge, vous tous passez devant le Seigneur. Alléluia. Dieu veut nous délivrer des cancers qui nous tiennent dans notre vie. Croyez-vous que Dieu peut vous déraciner de tous ces cancers-là? Combien le croient que Dieu est le Dieu de la guérison? Alléluia. Dieu, écoutez bien, Dieu se charge de changer les circonstances de votre vie et de vos épreuves. Dieu se charge de changer les circonstances dans votre vie et de vos épreuves. Bannissons la peur. Bannissons le négatif qui est dans votre vie. Dis à la montagne d'épreuves qui est devant toi. Dis à ton ennemi, tu n'as pas le pouvoir de me tenir captif. Tu n'as pas le pouvoir de me tenir captif. Commence à confesser la parole de Dieu. Le psaume 134, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Le prophète Élie, je vais terminer avec lui, quand il s'est combattu avec les prophètes d'Astérie et de Baal, et que tout tué ces prophètes-là, Élie s'est sauvé au point de dire, 1 Roi, chapitre 19, verset 4, qui nous dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme quand je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ici, là, Élie est à bout, il vit son burn-out. C'est ça qu'on est en train de dire. Il demande la mort. Donc, ça veut dire qu'il est fatigué, il est épuisé. Il a vécu ses combats. La chair est fatiguée, ses émotions sont fatiguées. Il est épuisé, à bout de rouleau. Et même, ça nous dit, 1 Roi 1900, il se coucha, il s'endormit sur un genêt. Et voici un ange le touchait, lui dit, lève-toi et mange. Donc, cet homme a besoin de se relever physiquement. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il va même envoyer un ange pour le nourrir, pour qu'il reprenne des forces. Et 1 Roi 19, verset 6, il regarda, il ayant à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé une cruche d'eau, il mangea et but. Donc, voyez à quel point que psychologiquement, quand on est fatigué, physiquement, moralement et spirituellement, on est fatigué. Et souvent, je trouve ça malheureux, Oh, vous n'aimerez pas ça que je vais vous dire, mais je vais vous dire pareil. Quand il y a des bons frères qui viennent avec des versets puis qui viennent t'assommer quand tu es déjà assommé, prie pour moi plutôt. Aie compassion pour moi. Alléluia. Il y a des temps, il faut savoir parler, puis il y a des temps, il faut savoir se taire. Et dans des temps de grosses tempêtes, ben, des fois, c'est juste bon de sentir une présence puis de dire, on est avec toi, mon ami. Commence pas à l'exhorter, puis il est assez mort comme ça, là. Achève-les pas. Alléluia. Si vous vivez cette tempête comme il lit, prenez votre livre, prenez la parole de Dieu, prenez les promesses, son oui, amen. Sa parole est remplie de promesses, délivrance, guérison, restauration, elle est remplie. Donc, Dieu est vérité. Alléluia. Et j'aimerais te dire que la compassion de Dieu se renouvelle à tous les matins. Allez, comme le peuple du désert, à tous les matins, allez chercher votre manne. Alléluia, une manne fraîche à tous les matins. Nourrissez-vous, regardez. Il y a une bonne nouvelle. Les nouvelles sont mauvaises, hein, Saint-Cyr. C'est vrai, vous regardez la TV, qu'est-ce qu'on entend? C'est juste du mauvais. Tempête, brûlement. Ça fait chaud, puis ça brûle, puis on est en guerre. Il n'y a rien de positif quand tu regardes ça. Mais la parole de Dieu, elle a la bonne nouvelle. Jésus guérit, Jésus ressort, Jésus relève. Alléluia. Alimentez-vous de ses promesses. Élie a eu peur. Toute situation de base émotionnelle doit être traitée à la base. Et le Seigneur va dire à Élie, 1er roi, chapitre 19, 9, Élie, il entra dans la caverne, il passa la nuit. Voici une parole de l'Éternel qui lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Dans la tête de Dieu, Dieu veut comprendre qu'est-ce qui est arrivé avec son prophète. Dieu veut entendre son prophète lui parler. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Dieu ne veut pas le punir, Dieu ne veut pas le reprendre, Dieu veut réconforter son prophète, mais il veut comprendre c'est quoi qui s'est passé. Dieu veut le dégager de ses fardeaux. Dieu veut faire, il veut parler avec Élie comme Dieu veut nous parler. Alléluia! Il veut enlever cette angoisse, le prophète, et lui redonner confiance à lui. À la question, que fais-tu ici, Élie? Là, Élie va faire quelque chose de merveilleux, il va ouvrir son cœur. Verset 10. Élie s'ouvra devant Dieu. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils sont cherchés à m'ôter la vie. Donc, Élie rouvre son cœur. Et je crois que ça doit se faire dans vos temps de dévotion. D'ouvrir votre cœur à Dieu. Demandez pas juste des bénédictions. Bénis-moi, puis dis bénis-moi, puis dis bénis-moi. Ouvre ton cœur. Dieu veut entendre le problème de ton cœur. Alléluia. Une discussion cœur à cœur. Quand tu parles à ta femme, vous avez des discussions cœur à cœur, n'est-ce pas? Donc, Dieu, c'est la même chose. Cœur à cœur avec Dieu. Hein? Puis David, pas David, mais Élie, ah, j'étais tout seul, puis j'ai resté tout seul, j'ai eu peur, je me suis sauvé. Ça n'a rien donné. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans ces choses-là? Il va venir lui parler dans un doux murmure. Il n'était pas dans le feu, il n'était pas dans les tremblements. Il était dans la douceur. Et Dieu, dans ses épreuves, il vient dans la douceur. La douceur où ton âme peut recevoir l'amour de Dieu qui rentre dans la profondeur pour guérir. Alléluia. C'est rassurant. C'est rassurant. Alléluia. Je vais terminer dans quelques minutes. Je vais passer parce que j'en arrive jusqu'à midi et demi. Là. Vous savez, je vais terminer avec cette illustration que vous connaissez dans le psaume 23, verset 5. Lisons psaume 23, verset 5. Et sûrement, vous l'avez déjà entendu, ce n'est pas des nouvelles, là, que je ne sais pas quoi qui est nouveau. Là. Dans le psaume 23, verset 5, « Il soint d'huile ma tête. » Et vous savez, ce psaume, quand il était écrit en été. Donc, c'est dans une période où qu'il y a beaucoup de bestioles qui sortent l'été. On sait, des maringouins, il y a toutes sortes de petites bestioles qui viennent. Et les petites bestioles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient où les animaux, où les narines des animaux, où c'est humide, puis les bestioles allaient pondre leurs œufs là. Mais quelques jours après que les œufs pondaient, donc ça faisait des petites larves, et les petites larves montaient dans la tête des animaux qui devenaient un irritant pour l'animal. Donc, à partir de ce moment-là, l'animal, ça déclenchait une irritation. Une forme, une inflammation, je pourrais dire. Et certaines brebis, sont prises de panique, ils vont s'enfuir, ils vont prendre toutes sortes de directions parce qu'ils souffrent, donc ils vont essayer de se débarrasser de ce grand mal. Les moutons se heurtent la tête sur les troncs d'arbres, sur les arbres, sur les rochers, sur les arbustes, se frottent la tête sur le rocher, sur le sol, parce que ça fait trop mal. Écoutez bien. Donc, ils vont secouer la tête des heures et des heures. Donc, ils vont courir jusqu'à épuisement total. Et d'autres vont se réfugier dans les buissons. D'autres vont devenir aveugles. D'autres même vont mourir. Puis d'autres même, ils vont aller jusqu'à se tuer, se suicider parce qu'ils ne sont plus capables. La douleur est trop forte. Et de même, ils vont refuser de broyer, ils manquent de lait, ils ne donnent plus là. Donc, l'animal est affecté par l'irritation. Et vous comprenez que les brebis essayaient d'éviter toute la souffrance. Et cette explication, ça nous parle que tu peux vivre des choses dures dans ta vie, de l'irritation ou des choses qui n'est pas facile, mais il y avait un surveillant, alléluia, et seul un berger vigilant pouvait discerner les difficultés de ces brebis. Donc, pour soulager la brebis, donc, il prenait de l'huile. Vous avez sûrement entendu cette histoire. Il prenait de l'huile, une huile spéciale qui allait devant l'animal, puis il mettait de l'huile où les narines, ses oreilles, sur la tête. Et une fois que l'huile était mise, l'animal reprenait une vie normale. L'irritation était partie, les mouvements robustes étaient partis, les mouvements désordonnés arrêtaient, les animaux retrouvaient une vie normale. Ils pouvaient enfin se reposer parce que l'huile emportait un soulagement sur leur vie. Si vous venez à Jésus ce matin, et si vous sentez que vous avez besoin d'être soulagé, l'onction est brise les jouets de l'ennemi. L'onction va vous mettre la paix dans votre vie. Alléluia! Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, mon joug est doux et léger. Donc, si tu es malade, Jésus est venu pour qui? Pas pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Donc, ce matin, en conclusion, si tu es blessé par la vie, tu as un bon médecin, tu as un bon berger qui déverse encore une huile de guérison. Allô? Quelle assurance que nous avons! Quel amour que nous avons d'un Père qui veut encore prendre soin de ton âme! Alléluia! Moi, je crois fortement, et depuis quelque temps, nous prions vraiment sérieusement. Seigneur, me demande encore de prier sur la guérison, parce que de la guérison à apporter ici. Allô? La déception des années, la déception des blessures, la déception de ci, la déception de ça, peu importe qu'est-ce que vous vivez, mais je crois que Dieu guérit ça. Je crois que Dieu veut guérir ça. Donc, commencez à visionner vers le futur et non vers le passé. Vivre dans le passé, c'est effrayant. Vivez dans votre présent. Tu veux-tu une guérison ce matin? Combien sont prêts à dire avec moi ce matin, « Seigneur, change mon cœur ». Ils sont prêts à dire, « Seigneur, moi, j'ai besoin de cette restauration de mon âme. Alléluia. Je vais être capable d'aimer. Je vais être capable de m'épanouir. Je veux arrêter d'avoir un jugement sur un jugement. » Allô? L'huile d'onction qui vient pour vous calmer, qui vient pour enlever votre mal. Alléluia. On va se lever ce matin. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais... On va arrêter ici, c'est beaucoup, là. J'aimerais ça que les musiciens puissent s'approcher. Apporter un chant sur la guérison, un chant sur la restauration. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans une église un matin, évangélique, où tu n'as pas entendu un message sur la guérison, peu importe quel âge que tu as. On a tous un défi devant nous, qu'on n'est pas exempt d'être blessé. Ce matin, ma prière pour vous, Seigneur, viens guérir les cœurs brisés. Alléluia. Combien sont prêts à dire avec moi ce matin, moi j'ai besoin de prière, j'ai besoin de guérison. Combien ont besoin? Soyez honnêtes. Soyez honnêtes avec vous. Ça se passe entre vous et le Seigneur. Moi, je ne peux pas rien faire, mais je peux m'appuyer avec vous, de prier pour vous. Que le Seigneur vous aide à votre guérison. Alléluia. Pendant qu'on va chanter, donc, j'aimerais ça que tu puisses juste délaisser ta place. Puis, frères et sœurs, fermez vos yeux, élevez vos mains vers le ciel. Priez pour les gens qui vont avancer. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner. Alléluia! On veut voir l'amour de Dieu se manifester. Est-ce que c'est votre désir? Alléluia, arriver à l'église, oui, c'est le fun, m'envoie à l'église un matin. Ou de m'envoie à l'église, arrêtez ça, arrêtez. Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est l'amour, c'est se dégager, c'est de se prendre soin les uns les autres, c'est d'emporter la paix, c'est d'emporter l'unité. Laissons l'amertume du passé de côté. Mettons nos angoisses de côté. Dieu est en charge de son Église. Il est le seul vrai boss des boss. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit dans son Église et qui vient restaurer son Église.